place dans vos cœurs. Donc c'est l'église, le bois de Villette, c'est quand même bien représenté, ça c'est magnifique. On a eu des très très bons contacts avec des gens qui possèdent un château à Thieuzy. C'est une fondation de la qui nous ont fourni un château tout à l'heure. Alors si c'est pas la grâce de Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, on a eu l'occasion de voir plusieurs choses pendant ce camp, et il y a certains points dont on a parlé pendant le camp que j'avais à cœur de partager avec vous. Peu importe ce qui nous amène ici. Parfois, j'ai l'impression que Dieu avec moi, il est comme un miroir qui me renvoie mon image. Il est comme un miroir qui me renvoie qui je suis, mes réactions, mes émotions. Et parfois, c'est vrai que l'image qu'il m'a envoyée ne me plaît pas beaucoup. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand je laisse Dieu parler dans ma vie, il me donne une nouvelle identité, il définit qui je suis d'une façon où mes insécurités et mes doutes ne peuvent plus être présentes. Elles doivent s'en aller. Donc si on apprend à connaître la volonté de Dieu et qui il est, on peut savoir qui nous sommes et ce qu'on est appelé à faire. Moi, je suis convaincu qu'on peut faire en Belgique une différence beaucoup plus grande qu'on le croit. On a fait ce calcul au camp, un peu de mathématiques, s'il y en a qui se tenant le dimanche matin, je parle de mathématiques, je vois vos visages qui sont devenus tristes, mais ne vous inquiétez pas, ça va être des chouettes maths. Si on imagine que quelqu'un ici, hein, quelqu'un dans cette pièce, Léa décide que cette année, en 2018, elle va amener une amie à elle ou un ami à elle à connaître Jésus, en faire un disciple qui suit Jésus et qui, à son tour, prêche l'évangile et amène des gens à connaître Jésus. Si elle concentre sur son année et les années à venir à faire ça, et qu'elle enseigne aux gens à qui qu'elle amène à Jésus à faire la même chose, à vraiment proposer aux gens une relation avec Dieu de façon concrète. Imaginons à votre avis combien de temps est-ce qu'il faudrait à Léa pour que toute la Belgique soit là. Combien de temps il faudrait à votre participation, donnez-moi des chiffres. Combien de temps est-ce que Léa, si elle évangélise toute seule, hein, il faudrait pour atteindre la Belgique si on sait que chaque personne à qui elle parle de Jésus va se répercuter, elles vont parler de Jésus, et donc la première année ils sont deux, la deuxième année ils sont quatre, la troisième ils sont huit, quatrième, 16, etc. À votre avis, combien de temps il faudra à Léa pour évangéliser la Belgique? Donnez-moi des chiffres, vous imaginez. Pardon?
Plus d'une vie.
Plus d'une vie. Et donc 80, 80, 90 ans, 100 ans? 150 ans?
Plusieurs
vies. Moi, j'ai 60 ans. 50 ans ici, 50 ans. 50 ans. 350 ans. Donc chaque année, Léa amène une personne à connaître Dieu, et cette personne va amener d'autres personnes à connaître Dieu. Chaque année, donc, la première année, ils sont deux, la deuxième année, ils sont quatre, la troisième année, ils sont huit, la quatrième année, ils sont 16, 32, 64, 128, 256, 712. Hein? Je donne la réponse, il faut 24 ans. Pour 24 ans, Aléa, pour 24 ans, Aléa, pour atteindre environ 18 millions de personnes, 16-18 millions de personnes. Et bien, ce chiffre que moi, quand j'ai vu ce chiffre-là, j'étais absolument choqué. Moi, j'étais comme Timothée, je me dis, ouais, pour 4 filles, là, on n'est pas le temps. Et alors, je vois ce chiffre en 24 ans, je me dis, mais ça va. Mais ça va, je peux faire d'autres trucs. 24 ans, c'est même pas qu'il vit vite. Imaginons un peu 30 personnes décident de faire comme Léa, si Léa, d'avoir lancé le mouvement, décident de faire comme Léa et d'amener des gens à Jésus chaque année qui amènent d'autres personnes à Dieu. Il faudrait 19 ans. Si 100 personnes le font, il faudrait 17 ans. Si 1000 personnes le font, il en faudrait 14. Et si 10 000 chrétiens en Belgique décident de le faire, il faudrait un peu plus de 10 ans. Si on prend les personnes qui sont nées de nouveau en Belgique, faisaient ça chaque année, elles amenaient quelqu'un à connaître Dieu. Et à son tour, cette personne-là avec quelqu'un à Jésus, il faudrait plus ou moins 5 ans pour que toute la nation soit exposée au moins à l'évangile. Je pense qu'on peut avoir un impact beaucoup plus grand qu'on le pense. Je pense que notre vie, que ce soit avec Dieu ou de façon même très pratique, eh bien, elle peut avoir un impact beaucoup plus grand qu'on le pense. On n'imagine pas toute l'influence qu'on peut avoir sur notre environnement. Parce que on a un message qui ne nous rend pas très spécial. On est nombreux sur Terre, on se demande qu'est-ce qu'on doit faire, on doit trouver un boulot, rentrer dans le quotidien. Mais est-ce que moi je peux vraiment avoir un impact sur mon environnement? Moi je crois que chaque personne ici peut avoir un impact qui transforme notre pays et le monde. Je me souviens toujours lorsque mes parents m'ont amené au cirque. J'avais toujours été dans des petits cirques, le cirque Bouglione. La Bouglione, voilà, le cirque Bouglione, un petit cirque, c'est bien. Et puis un jour, mes parents ils m'ont amené un cirque qui s'appelait le cirque El Florilegio. El Florilegio, c'était à Bruxelles, c'était un cirque européen. C'était énorme, il y avait des animaux sauvages, des clowns, des artistes, des danseurs, des acrobates. Il y avait le présentateur aujourd'hui, toujours son nom, mais un nom caractéristique, Monsieur Royal, il présentait, et je me souviens, André, les acrobates ont commencé à travailler en hauteur. Ils ont travaillé en hauteur, c'était des acrobaties, pas à la hauteur d'une échelle, mais vraiment à la hauteur du chapiteau, c'était incroyable. J'étais petit, j'avais quoi, 6, 8 ans. Et il y a un filet qui fut tendu en bas pour rattraper les acrobates s'ils tombaient. Parce que très simplement, s'ils tombaient de 20 mètres de haut, de 10 mètres de haut, la chute aurait été fatale. Moi, je pense que dans l'état actuel des choses, le seul filet que les gens ils ont à l'extérieur, c'est nous. Et que, à cause de la façon dont l'Église est organisée aujourd'hui, et la façon dont les chrétiens vivent leur foi, l'humanité est en chute libre. Tu es très probablement le seul croyant, le seul filet que les amis connaissent. C'est un constat qui peut être facilement fait lorsqu'on regarde les choses. Mais moi, j'en rappelle, en grandissant, me sentir totalement inapte à atteindre les gens autour de moi. J'avais l'impression que je n'arrivais même pas à m'atteindre moi-même. Alors comment est-ce que tu veux que j'atteigne les gens autour de moi? Même si on imagine autre chose qu'évangéliser, juste faire du bien autour de soi, juste être une bonne personne qui fait du bien. J'avais du mal à être une bonne personne, hein, je me disais, mais comment est-ce que je vais faire du bien autour de moi? Et j'ai vite compris que la façon dont nous voyons Dieu et la façon dont on vit notre foi et on se voit nous-mêmes, ça va influencer la façon dont on vit. Il y a des moments où on doit arriver à un changement de mentalité pour pouvoir vivre et recevoir ce que Dieu veut nous donner. Un changement de mentalité. La mentalité, je me rappelle que j'avais, n'était pas apte à pouvoir changer mon environnement. Prenons un premier point, la façon dont nous voyons Dieu. La Bible nous présente Dieu comme un Père qui nous aime profondément. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? On est tellement concentré par rapport aux circonstances de notre vie. Et parfois, on le projette sur Dieu, on imagine que les choses qu'on a faites, on les met sur Dieu. Mais est-ce qu'on a vraiment compris qu'est-ce que Dieu il veut nous dire quand il dit que c'est un Dieu qui est un Père, qui se présente comme un Père à l'humanité? Parfois, lorsqu'on parle de l'Évangile, on parle de Jésus comme du Sauveur qui était là pour expier les péchés du monde. Et c'est vrai, on parle de la mort cruelle que Jésus a vécue, car les hommes étaient cruels. Et on a parlé du Dieu le Père qui a reçu la mort de Jésus comme pardon pour nous. Et parfois, il y a une traduction qui se fait dans notre tête, on a l'impression que Dieu avait besoin d'un sacrifice pour calmer sa colère. Que Dieu avait besoin d'un sacrifice pour couvrir toute la haine et la colère qu'il avait envers l'humanité. C'est parfois un peu le message indirect qu'on donne du Père. Mais si on regarde l'Évangile, on peut se poser la question, qui a envoyé Jésus? À qui est-ce que Jésus obéissait? Jean chapitre 5, 36 à 38, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données à accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Jean chapitre 14, verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des miracles qui sont effectués. C'est vraiment le Père qui a envoyé Jésus. C'est pas un père en colère ou fâché sur l'humanité, mais rempli du même amour que Christ a pour nous. Le Père et Jésus sont le même Dieu. On doit recevoir Dieu comme un père dans nos vies. C'est difficile parfois parce que le projet de notre Père reste sur notre Père céleste. Et
ses défauts sur Dieu. Ou parfois on n'a pas eu une relation la plus meilleure avec notre Père terrestre. Alors on traduit ça dans notre relation avec Dieu. Quelle est notre attitude lorsqu'on pêche, lorsqu'on commet un péché? On sent le Saint-Esprit nous convaincre de Dieu. Est-ce que notre réflexe, notre habitude, c'est de courir vers Dieu lorsqu'on pêche ou de se séparer de sa présence? On a peur de salir Dieu peut-être. Est-ce qu'on est insécurisé par rapport à l'amour qu'il nous porte? La vérité, c'est que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a couvert nos péchés dans le passé, dans le présent et dans le futur. Dans le passé, dans le présent et dans le futur. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de demander continuellement pardon lorsqu'on arrive devant Dieu. Est-ce qu'on n'a pas déjà fait ça dans nos vies chrétiennes où à chaque fois qu'on vient devant Dieu, on lui demande pardon? Mais Dieu, il nous a pardonné une fois pour toutes. Pas à chaque fois. Parfois, on confond une attitude de repentance avec le pardon de Jésus à la croix. Un cœur qui peut apprendre avec le pardon de Jésus. On a souvent une relation, parfois avec Dieu, je le dis souvent, on a la même relation avec Dieu qu'on a avec le code de la route. On le suit quand on est contrôlé. Je ne sais pas si vous avez cette relation-là avec le code de la route. On ne suit le code de la route que quand on est contrôlé. Enfin, ça dépend, hein. Les limites de vitesse, par exemple. Moi, j'ai un frère qui est avocat, il a une lecture très libérale du code de la route. Il dit, non, ce n'est pas des limites de vitesse, c'est des propositions. Et si tu les dépasses, bien, tu as une taxe sur la vitesse. Voilà. Et si tu es prêt à payer la taxe sur la vitesse, eh bien, tu peux rouler vite. Mais quelle lecture intéressante du code de la route, quand même, hein. On voit qu'il est avocat, hein. Non, mais ça, il respecte quand même. C'est des vitesses suggérées, Benjamin, me dit-il. Ah bon, d'accord. Enfin, chacun son rapport avec le code de la route. On doit venir devant notre Père avec une attitude de repentance, oui, tout à fait, mais en sachant qu'on a un libre accès grâce à la croix, en sachant qu'il faut bien comprendre le message de l'Évangile, le message qu'il a voulu nous dire. Si je comprends mal qui Dieu est et si je comprends mal son message, je vais mal comprendre ce qu'il me veut et mal recevoir son amour. Et ça mène au deuxième point, la façon dont on comprend la grâce. Souvent, on analyse la vie à travers le filtre de nos cassures. La façon dont on comprend la grâce est filtrée à travers nos cassures et ça nous comprend de comprendre la valeur actuelle de l'Évangile. On avait une discussion, je me rappelle, hier soir avec quelqu'un. Et on mettait en avant que c'est vrai, beaucoup de gens viennent à Dieu pour avoir des choses. Beaucoup de gens viennent à Dieu pour avoir des choses. Parfois même, les gens viennent à Dieu pour un bonbon moral, un cadeau moral. Je suis bon parce qu'à la fin, je vais être récompensé. Mais ça enlève la valeur d'être bon. Jésus n'aurait été bon même s'il n'y avait pas de récompense à la fin. La récompense, c'est une conséquence. Mais souvent, on attend comme ça une récompense morale de la part de Dieu. Je suis Dieu parce que, eh bien, je suis le chemin que Dieu veut pour moi, parce que je veux être récompensé à la fin. Mais Dieu, quand il s'adresse aux gens dans l'Ancien Testament, à partir du moment où les petits prophètes apparaissent, il y a un message qui apparaît qui dit que le message, il faut qu'il vienne de l'intérieur, le changement. Dieu il veut mettre un changement qui vient de l'intérieur, il veut transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut mettre la loi en nous. Il veut imprimer, changer quelque chose, réparer un truc dans notre âme qui fait que ce n'est pas juste un changement de comportement, mais c'est un changement d'âme. Je ne fais pas le bien parce que je dois le faire, mais je fais le bien parce que j'ai envie de le faire. Je ne perds pas mon temps à chercher le bonheur, mais le bonheur vient à moi parce que j'ai appris qui Dieu est et ma place dans l'univers. Si on se sent cassé, sache que l'Évangile, il est là pour te réparer. Si tu ne te sens pas capable, il est là pour te rendre capable. Si tu ne te sens pas appelé, il est là pour te mandater. La façon dont on prend la grâce, c'est absolument essentiel. La vérité, c'est que l'Évangile, ce n'est pas pour plus tard, c'est pour maintenant. Ce n'est pas pour la vie éternelle, c'est pour maintenant. L'Évangile, un professeur de la loi dans Luc chapitre 10, dit ceci, se leva et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle » dit-il pour piéger Jésus. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qu'est-ce que tu y lis ?» Et il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus raconte alors une histoire. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui le voyait, il voyageait, arriva près de lui et fut rempli de compassion par ce qu'il vit. Il s'approcha, banda ses plaies et versa de l'huile et du vin. Puis le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, « Va agir de la même manière, toi aussi. » Un avocat pose une question à Jésus. La loi et la religion à l'époque de Jésus s'étaient absolument entremêlées. Donc un professeur de la loi, c'était littéralement un avocat. Et il pose une question pour piéger Jésus. Il pose comment avoir la vie éternelle. Mais on sait fermement que les Juifs croyaient déjà en une vie après la mort, à la résurrection des morts, une grande partie des Juifs. Et cette question-là, la façon dont on la lit aujourd'hui, c'est on se demande comment avoir la vie après la mort. Mais ce n'est pas la question que le professeur de la loi pose. Ce que le professeur de la loi pose, c'est comment avoir une vie pleine de Dieu, avoir une vie pleine de vie. Comment avoir la vie éternelle, la vie en abondance, pendant que je vis ici sur terre. Il donne une superbe question à poser à Jésus. Comment avoir une vie pleine de toi, Jésus ? C'est dommage que c'était pour le piéger. Jésus fait répondre 2 choses très magnifiques. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'avocat n'est pas satisfait parce que il y a ce jeu de questions-réponses qui se passe à l'époque de Jésus. Il essaie de le piéger. Jésus a retourné la question par une question. Un bon rabbi. Voilà. Et donc il continue. Il demande qui est son prochain. Et Jésus raconte une histoire très connue pour aujourd'hui. La parabole du bon samaritain. Dans les oreilles du professeur de la loi, le bon samaritain, ça sonnerait comme le bon soldat de Daesh. Le bon nazi. Il y avait une histoire entre les peuples samaritains et les peuples juifs. Les samaritains s'étaient devenus une sous-religion, même une hérésie du judaïsme. Ils avaient mélangé le dieu Yahweh avec d'autres rites cananéens et des choses comme ça. Ils avaient d'autres sites sacrés. Ils étaient éloignés de la loi. Et donc, quand Jésus prend le samaritain, le bon samaritain comme exemple, c'était vraiment choquant pour le professeur de la loi. En gros, Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est que le samaritain a mieux respecté la loi que le lévite et que le prêtre qui passait sur le chemin. En plus, il est marqué que le prêtre ou le lévite passait par hasard par ce chemin-là. Entre ces 2 villes, il y a 1 chemin. Ce n'était pas par hasard. Il ne pouvait passer que par là. Et Jésus est en train de dire que le bon samaritain a mieux agi que cet homme religieux ou cet homme qui avait reçu la bénédiction de Dieu de sa naissance. L'avocat, il s'en écranle et n'arrive même pas à prononcer le nom. Quand Jésus lui demande d'identifier dans l'histoire qui fut le prochain, l'avocat répond, c'est celui qui a agi avec bonté. C'est le bon samaritain, non, c'est celui qui a agi avec bonté. Et Jésus lui dit, va agir de la même manière. Quel renversement culturel. Là où tout était très blanc et noir dans la vie des Juifs, Jésus y vient. Et il vient renverser l'homme en disant que l'ennemi a mieux suivi la loi. L'ennemi a mieux suivi Dieu. La grâce, ce n'est pas pour les gens parfaits ou religieux, mais pour les gens brisés qui se sentent inaptes. Dieu, il veut enlever ces choses-là et nous revêtir chaque personne d'une identité céleste. On doit arrêter de stéréotyper les gens à l'extérieur et de nous voir un peu comme nous les gentils et eux les méchants. On est souvent, parfois j'entends ça dans les églises chrétiennes, se plaindre de l'état pécheur du monde. Comment est-ce que la Belgique, elle est noire et elle est difficile? Comment est-ce que l'État, les gens, ils pêchent, cette société part en vrille? Mais on s'attend à quoi? Jésus, il n'est pas venu pour les gens qui étaient en bonne santé, il est venu pour les gens qui étaient pécheurs, qui étaient cassés, brisés. On doit accueillir les gens et les amener, toute personne, devant Jésus. Et lui laisser faire les choses. Ce n'est pas à nous de régler les choses, mais à lui. Il fait noir, parfait. Jésus, c'est la lumière. Et où là, il y a de la lumière, il ne peut pas y avoir d'obscurité. Et la lumière, en plus, elle vit en toi. La façon dont on voit le Père, la façon dont on comprend l'Évangile, et enfin, la façon dont on s'aime. La façon dont je me vois, ça va influencer la façon dont j'interagis avec le monde. Dieu commande de s'aimer et d'aimer les autres. Et bien sûr, pour cela, il faut avoir une bonne image de soi. Si j'ai des insécurités, ce qui est normal, hein, on en a tous, je vais quand même agir avec mon environnement, avec ces insécurités comme un poids, comme des parasites. Pour pouvoir vraiment embrasser le message de l'Évangile et recevoir l'amour du Père, il faut être dans une attitude de créature qui peut recevoir. L'attitude de repentance dont je parlais. Si je ne m'aime pas, pourquoi est-ce que je recevrai l'amour d'un Père? Si j'ai une mauvaise image de moi, pourquoi est-ce que je laisserai quelqu'un m'aimer? Les psychologues et les philosophes nous appellent la génération, pour ceux qui ont 30 ans au moins, on va dire, on nous appelle la génération flocon de neige. Pourquoi? Parce qu'à la moindre remarque, on réagit. Quelqu'un voit mon message sur Facebook et il n'a pas répondu. Attends, tu rigoles, quoi? T'as vu mon... Moi, je passe du temps avec des adolescentes de 16 ans. Si je regarde le message mais que je ne réponds pas, oh là là, c'est la fin du monde. Quelqu'un ne nous inclut pas, on se sent exclu. On a l'impression que la génération est devenue hyper égoïste. Mais on a l'habitude de toujours rester un peu égoïste, mais les gens qui sont égoïstes, c'est pas qu'ils s'aiment trop, c'est qu'ils s'aiment pas assez. Les gens qui sont égoïstes, c'est pas qu'ils s'aiment trop, c'est qu'ils s'aiment pas assez. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On doit apprendre à s'aimer, on doit apprendre à se remettre en question, à se dire, ok, parfois quand je réagis face à Dieu, face aux autres, c'est parce que j'ai quelque chose de cassé en moi. C'est parce qu'il y a la façon dont je me vois, la façon dont j'ai vécu ma vie, et parfois c'est légitime, on a une mauvaise image de nous-mêmes parce qu'on a vécu des choses difficiles. Moi, j'ai rencontré des gens, ils ne croient pas en Dieu, j'écoute leur histoire de vie, et je dis, mais je comprends que tu ne crois pas en Dieu. C'est chaud, c'est difficile. Mais c'est notre responsabilité de pouvoir nous connecter au royaume de Dieu et d'amener une différence dans la vie des gens. À ceux qui n'ont jamais connu de l'amour, à ceux qui n'ont jamais connu de la générosité, une bonne famille, un bon mariage, à ceux qui n'ont pas connu... qui n'ont connu que la tristesse ou la douleur ou l'échec, c'est notre responsabilité d'amener les gens dans la réussite, à les exposer à de l'amour, les exposer à de la générosité. C'est nous qui devons représenter le message de l'Évangile sur terre. Évidemment, Dieu fait sa part, Dieu prend le relais quand on n'est plus là, le Saint-Esprit travaille dans les cœurs, mais c'est notre première responsabilité de pouvoir toucher les gens avec l'amour de Dieu. C'est pour ça que dans certains cas, l'Église doit demander pardon à l'humanité parce qu'on n'a pas été un bon témoignage de l'amour de Dieu dans la vie des gens. Quelques vérités pour notre vie, pour sortir un peu de cet égoïsme qui vient d'un manque d'amour propre. Le but de la vie n'est pas de nous procurer du plaisir, mais de rencontrer Dieu et de le servir. Le but de la vie n'est pas de nous procurer du plaisir, mais de rencontrer Dieu et de le servir. Alors, quand je dis ça, ça fait un peu bizarre parce qu'il y a la notion de service, que ma vie soit au service de quelque chose. Alors service n'enlève pas cette notion de volonté. Service, ça ne veut pas dire être esclave d'eux. Tu peux être au service d'un ami, connecté à ses désirs, à sa vision, et ensemble, accomplir quelque chose. Parfois dans l'église, on définit le but de la vie comme le mariage. Moi j'ai déjà entendu ça, le but de la vie c'est de se marier, trouver quelqu'un, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et puis après ça, les gens, ils se marient, ils trouvent quelqu'un, ils vivent, ils ont beaucoup d'enfants, et on n'aura pas appris à être heureux. Ah, problème. Dans mon travail de médiation, j'ai rencontré tellement de gens qui étaient malheureux, quand j'ai des couples face à moi, parce que ils étaient là pour leur bonheur. Évidemment, une relation romantique, un mariage, ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais à un moment donné, on va essayer de trouver en Dieu, de trouver en l'autre ce qu'on doit trouver en Dieu ou en nous-mêmes. On essaie de trouver en l'autre, d'attraper en l'autre. Excusez-moi, il y a des moustiques. Une mouchette, je sais pas. On essaie vraiment de trouver dans l'autre personne ce qu'on devrait soit trouver en nous, soit trouver en nous-mêmes. Les gens, on essaie de les maintenir vraiment proches de nous. Parfois, on devient manipulateur pour être certain qu'ils nous aiment, de sentir qu'ils nous aiment, parce qu'on a peur de les perdre. Et c'est intéressant parce que c'est exactement à ce moment-là qu'on les éloigne de nous. Alors, mes paroles ne sont dirigées à personne, ne vous inquiétez pas. Moi, je parle d'un cas général, que tout le monde se mette à l'aise. Parfois, on devient tellement commercial dans nos relations humaines. On devient tellement commercial. À cause de la peur du rejet, on est tellement vite prêt à vite couper les ponts dans nos relations, car on a l'habitude de prendre les gens au piège. Écoute, tu me donnes cela, je te rends cela. Si tu ne réponds pas à mes messages, je te boude. Si tu ne donnes pas le même amour que je te donne, moi je t'enlève mon amour. On conditionne nos relations en les rendant commerciales parce qu'on est insécurité que les autres nous abandonnent. On rend nos relations commerciales parce qu'on est insécurisé que les autres nous abandonnent. J'ai un groupe d'amis avec qui on a décidé de tout se dire, presque tout, mais on a décidé surtout de ne pas se faire d'ultimatum émotionnel. On a le droit d'être fâchés les uns avec les autres, on a le droit de se dire les choses. Et il n'y a pas un moment où on dit, si tu fais pas ça, c'est fini. Ah, c'est difficile. C'est difficile. Parce que parfois tu rencontres les gens qui ont des façons de vivre et des façons de faire les choses qui sont complètement différentes de toi. Et s'il y avait une valeur là-dedans? Si Dieu il est relationnel, il nous a créé pour être relationnel. S'il y avait une valeur d'être dans des moments où je suis inconfortable, exposé à l'autre, parce que ça m'aide à apprendre qui je suis. Mes amis, ils m'ont appris que la loyauté c'était important pour moi. Et je filtrais beaucoup de choses dans ma vie à travers cette notion de loyauté et je ne le savais pas. Et après je l'ai formulé, la loyauté c'est important pour moi. Ça m'a fait du bien, j'ai compris quelque chose par rapport à moi-même. Ça me rappelait ce qu'on fait avec Dieu. J'apprends qui Dieu est, j'apprends qui je suis. Il me renvoie un miroir. Il y a d'autres choses qu'on apprend comme ça. 99% des malentendus, c'est les gens qui ne se comprennent pas. Et Dieu, il est vu dans notre monde et il nous a compris. 99% des conflits, c'est les gens qui ne se comprennent pas. Et Dieu, il est venu dans le monde et il nous a compris. Je me rappelle très bien, on l'a rencontré avec un ami qui s'appelle Alexandre et un autre, David. Un homme qui est c'est pas très important qui il est, c'est le président du syndicat des indépendants, c'est un homme qui est un peu fait du lobbying politique, c'est quelqu'un qui est extrêmement relationnel, avec qui un ami a développé une relation amicale, il est connecté, ils ont 30 000 affiliés indépendants en Wallonie, c'est vraiment quelqu'un qui va s'adresser au ministre pour essayer de faire bouger les choses. Qu'il se fâche parce qu'on ne gagne pas assez d'argent. Enfin, voilà. C'est un syndicaliste. Voilà. Et puis, il nous a observé avec Alexandre et David, et il nous a dit, je ne comprends pas comment des gens si différents peuvent être amis. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment des gens si différents, vous êtes tous trop différents pour être amis. Alors là, tu as Alexandre qui a fait un grand sourire. Vous avez vu Alexandre, le pasteur de Charleroi, qui joue de la guitare. Et on savait pourquoi. On savait pourquoi. L'Évangile nous a rapprochés. Et ça nous a exposés à cette valeur de la relation. Moi, je pense qu'il y a une plus-value de changer la façon dont tu te vois, parce qu'à ce moment-là, si tu arrives à t'aimer, tu vas pouvoir recevoir l'amour de Dieu, et recevoir et bien comprendre son message. Ne pas filtrer son message à travers tes échecs, mais filtrer son message à travers qui il est. Enfin, on doit arrêter de constamment se fatiguer à essayer de tout contrôler. Souvent, on vit un rôle et on porte un masque. Parce que ça prend un masque qui plaît aux autres. Et parfois, ça prend une énergie vraiment phénoménale. Ça prend une énergie phénoménale. Au lieu de prendre cette énergie à essayer de contrôler les autres et de contrôler nos réactions face aux autres, on va prendre cette énergie-là et essayer de la concentrer sur nous-mêmes, à travailler sur nous-mêmes. Surtout quand je rencontre des jeunes qui sont à la recherche d'un conjoint. Ils sont tellement à regarder ce qu'il y a autour d'eux qu'ils oublient de regarder à eux. Mais deviens la personne que tu as envie d'être, et je te promets, ta femme ou ton futur mari, c'est lui qui va venir à toi. Deviens la personne que tu as envie d'être. On doit être égoïste, mais égoïste de la bonne manière. On doit recevoir les choses que Dieu veut nous donner. Mais pour cela, parfois, il faut vider notre sac. On doit vider notre sac de l'insécurité, du manque d'amour propre, du jugement. On a l'habitude parfois de penser qu'on ne peut rien apprendre, mais c'est faux. Il faut se sentir aimé par Dieu comme on est. Et quand il nous apprend des choses, on doit juste être réceptif. Maintenant, la conclusion pour ce matin, c'est: est-ce que je vais répondre à ce besoin? Est-ce que je vais être comme le prêtre ou le lévite qui a passé son chemin? Ou est-ce que je vais être bon comme le bon samaritain? Est-ce que moi, je suis prêt à investir mon temps, mon argent, mon futur, à travailler sur moi-même pour pouvoir affecter mon environnement? On peut rester dans le même modèle, dans la même mentalité, ou on peut se remettre en question. Et je pense que c'est ce qu'on peut demander à Dieu ce matin quand on se met devant lui. Est-ce qu'on est prêt à demander au grand pêcheur qui s'appelle Jésus de jeter son filet sur la Belgique? C'est moi le filet, c'est toi le filet. Je propose qu'on fasse un moment de prière. Je vais rappeler Camille, je vais rappeler, et Léa. J'ai envie qu'on puisse se mettre vraiment devant Dieu. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses ce matin, beaucoup de points sur l'insécurité, la façon dont on voit Dieu, la façon dont on comprend son message. Et j'espère qu'il y a une de ces choses-là, je le crois même, qui a percuté votre cœur. On peut juste se mettre devant Dieu et demander au Saint-Esprit de venir peut-être mettre la lumière là où il faut. À se dire, ce point-là, ce qui a été dit, c'est vrai, il faut que tu puisses recevoir mon amour. Mais pour recevoir mon amour, il faut que tu apprennes à t'aimer. Dieu veut nous apprendre à nous aimer. Écoute, tu as vécu tellement d'échecs dans ta vie que tu te sens comme un échec. Mais ce n'est pas vrai. Moi, je veux amener autre chose qu'un échec dans ta vie. Écoute, on t'a tellement maltraité que tu n'es pas capable de t'aimer. Moi, je veux apprendre à ce qu'on t'aime. Ça, c'est Dieu qui nous parle. Il nous parle comme ça. Et on peut aussi prier que Dieu mette dans nos vies des gens qui sont vraiment le reflet de l'amour de Dieu pour nous. Moi, j'ai des gens dans ma vie où je leur dis, tu es le reflet de l'amour de Dieu pour moi. Quand je suis avec toi, je sens l'amour de Dieu. C'est bizarre à dire parfois, mais je pense vraiment que Dieu veut qu'on puisse se réparer nous-mêmes pour pouvoir aller être une lumière dans l'obscurité de la vie des gens. Amen. Amen. Mettons-nous devant Dieu. Père Céleste, je te remercie pour ton message qui est à la fois simple et également très profond, Seigneur. Seigneur, tu vois jusqu'au plus profond de nos cœurs. Tu vois s'il y a des cassures, des brisures, des insécurités, de la colère, de la haine. Seigneur, tu vois toutes ces choses. Et on veut se tenir disponible devant toi, Saint-Esprit, pour que tu puisses changer nos cœurs. Pour que tu puisses changer ce qui est cassé en nous. Peut-être qu'on n'arrive pas à s'aimer, peut-être qu'on n'arrive pas à réussir parce qu'on a vécu que des échecs, Jésus. Et moi, j'ai juste envie de briser ces choses-là dans le nom de Jésus. Seigneur, ton évangile, ton message, il proclame quelque chose de différent. Il proclame que si on est cassé, tu peux nous réparer. Que si on n'a plus d'espoir, tu peux amener de l'espoir. Que si on se sent pas appelé, si on sent que notre vie n'a pas un but, tu peux nous mandater de donner à notre vie un but. Et on se tient devant toi, Jésus, on te demande d'agir maintenant dans le cœur et de nous parler profondément. Viens réparer les choses en toi, Seigneur. Seigneur, on veut te demander pardon si parfois on t'a accusé des choses qu'on a provoquées nous-mêmes dans nos vies. On veut te demander pardon si parfois on n'atteint pas la marque. Mais Seigneur, on ne te demande pas seulement pardon, mais on vient devant toi avec confiance et avec sérénité parce qu'on sait que tu as payé le prix pour nous, Seigneur. On se met dans une attitude de repentance, on est prêt à changer, à recevoir de toi. Viens parler à nos cœurs ce matin. toute la honte, tous les échecs qui ont été crucifiés à la croix, en même temps que Jésus est mort. Alors tu peux vraiment lever ta tête haute. Il n'y a pas un échec de ta vie qui peut définir qui tu es. C'est Dieu qui définit qui tu es. Tu es quelqu'un de valeur. Alors si tu es quelqu'un de valeur, tu peux agir en conséquence. Merci Seigneur, parce qu'on n'est pas rien, on est quelque chose avec toi. Merci Jésus. Ton message vient pas seulement le rendre comme des mots ce dimanche matin, mais vient le rendre concret et provoquer un changement dans notre vie à chacun. Seigneur, ce matin, on te reçoit comme un Père, on reçoit ton amour, on reçoit ton évangile de grâce et on apprend à s'aimer nous-mêmes pour qu'on puisse aimer les autres. Viens jeter ton filet sur la Belgique, Seigneur, ton filet qui est l'Église, dans ton nom de puissance. Certains d'entre vous qui veulent recevoir la prière, le pasteur Pascal est disponible. Si vous voulez qu'on prie ensemble, on peut le faire également.